Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Le programme que vous allez entendre est une rediffusion.
Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Version Originale. Une émission spéciale ce soir car, comme vous venez d'entendre, les mains ont la parole cette semaine sur l'antenne d'Aligre FM. Une semaine consacrée donc à l'artisanat. Dans le cadre de cette thématique, je vous propose de découvrir deux structures, deux ensembles de réseaux qui se consacrent à l'artisanat. Artisans d'avenir et l'atelier des créateurs. Nous en parlons dans quelques minutes avec Philippe Azet des Artisans d'avenir, puis avec Marie-Laure Massieu de l'atelier des créateurs. En attendant, on écoute la musique de Sonny Rollins. Sonny Rollins, le titre du morceau « You do something to me » sur Aligre FM 93.1. Et dans le cadre de cette semaine thématique consacrée à l'artisanat, je vous propose de découvrir les artisans d'avenir. Les artisans d'avenir est un réseau qui active les projets des artisans d'art. Artisans d'avenir donc mènent ses actions en partant de la conviction que l'artisanat d'art n'est pas voué à disparaître, mais à retrouver une place dans notre quotidien. Nous en parlons avec Philippe Azet, cofondateur des Artisans d'Avenir. Bonsoir Philippe Azet.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Philippe Azet. Je rappelle que vous êtes avec Aude Auguet, cofondateur des Artisans d'Avenir.
Donc,
persuadé que les projets des artisans d'art sont des métiers d'avenir, vous accompagnez les artisans à chaque étape importante de leur activité pour faciliter la transmission des savoir-faire et la réussite de ceux et celles qui entreprennent. Philippe Azet, comment faut-il comprendre cette affirmation « retrouver une place dans notre quotidien »
en ce qui concerne l'artisanat? Laissez-moi vous remercier pour l'invitation de ce soir à l'occasion de cette semaine. En fait, on est vraiment parti de cette conviction qu'aujourd'hui, les artisans d'art, de par leur savoir-faire, de par leur l'univers et leur passion, ont vraiment quelque chose d'important pour notre société. Déjà parce que depuis tout temps, l'homme est créateur, transforme la matière. Et je pense qu'une des premières choses qu'a fait l'homme, c'est justement de fabriquer des outils. Et donc il y a vraiment quelque chose de très humain dans le fait d'être artisan d'art. Et puis surtout parce qu'on a la conviction que aujourd'hui, que ce soit dans les enjeux climatiques, que ce soit dans la recherche de sens que l'on porte sur notre consommation, l'artisanat d'art répond à cela parce que il va venir fabriquer des pièces uniques, parce que il va produire localement, parce que il va dynamiser des centres-villes, parce qu'il va être grâce à son savoir-faire capable d'innovation. C'est tout ça qui fait que en fait, lorsque les gens s'interrogent sur la manière de mieux consommer, lorsque les gens se posent la question de comment on peut agir sur la planète, bah les artisans d'art, quelque part, sont une solution à ça. Et que les remettre un peu dans la rue, en face de nous, lorsqu'on sort et qu'on tombe sur une vitrine, c'est donner une chance justement à ces gens qui cherchent un sens dans leur consommation. Et c'est en cela aussi qu'on veut faire en sorte qu'ils retrouvent une place dans notre quotidien.
Philippe Azet, nous reviendrons sur cette notion de sens qui s'inscrit dans l'activité de votre réseau. Mais avant ça, essayons de comprendre comment fonctionnent les artisans d'avenir. Donc, vous appuyez sur la force du réseau, réseau d'artisans d'art, réseau de bénévoles et d'experts, ainsi que réseau d'entreprises spécialisées. Comment fonctionne le réseau, justement?
Notre réseau, en fait, s'appuie sur deux pieds. Le premier, c'est on parle vraiment d'un réseau d'accompagnement. Et en fait, ça veut vraiment tout dire, parce que dans le réseau d'accompagnement, il y a à la fois la notion de collectif, c'est-à-dire qu'on va beaucoup s'appuyer sur l'expérience d'autres artisans d'art, sur la rencontre entre les artisans d'art, pour s'apporter des solutions, pour s'apporter des réponses aux questions qu'on peut avoir au quotidien. Il ne faut pas oublier que plus de 80% des artisans d'art sont auto-entrepreneurs et sont seuls. Donc en fait, il y a aussi la solitude de l'atelier. Donc déjà, la notion de réseau, c'est créer du collectif pour trouver des réponses lorsqu'on a des problématiques au quotidien. Et puis le deuxième pied dans notre réseau d'accompagnement, c'est le contenu. Et donc, c'est de s'appuyer sur des experts, des entreprises un peu plus développées, des artisans d'art expérimentés pour apporter du contenu et de l'expertise. Et donc, on mélange tout cela et ça nous donne plusieurs formats. Ça peut être autant on essaye de faire un rendez-vous par mois sur une thématique précise qui peuvent être comment je calcule mon prix quand je suis artisan d'art, comment je gère mon temps quand je suis artisan d'art. Ça peut être en écoutant notre podcast Voix qui va venir interroger un artisan d'art et ou un expert sur une thématique. Ça peut être en lisant notre newsletter, en entrant toutes les opportunités du mois pour un artisan d'art. Ça peut être en suivant un programme d'accompagnement où on va venir conseiller un artisan dans la création ou le développement de son entreprise pendant plusieurs semaines. Donc voilà, ça prend plusieurs formes, mais toujours avec cette idée de mélanger le collectif, l'expertise et l'expérience des artisans et le contenu pour donner des réponses pratiques faciles à mettre en œuvre à des artisans d'art qui ont des questions au quotidien, parce que c'est des entrepreneurs comme les autres qui doivent faire le métier de 5 personnes. Ils ne sont pas cantonnés juste à leur savoir-faire, ils ont aussi besoin de vendre, de communiquer, etc., etc. Et toutes ces questions qui se posent, nous on est là pour essayer de leur apporter, vraiment comme un réseau d'accompagnement, comme l'associé qu'ils n'ont pas pour la plupart, ou bien vraiment comme un mentor qui essaye de les conseiller, de leur apporter des réponses aux problématiques du quotidien.
Philippe Azet, donnez-nous un exemple de ressources, on va dire donc d'outils que vous pouvez mettre entre les mains à la portée d'un artisan d'art qui viendrait frapper à votre porte.
Très facilement, parce que on le trouve sur n'importe quelle plateforme, c'est par exemple d'écouter nos podcasts Voix, V-O-I-E-S, qui sont à la fois des podcasts qui sont créés lors d'interviews d'artisans d'art, mais qui sont aussi des rediffusions de tous les événements qu'on fait sur des thématiques précises. Et donc très rapidement, en fouillant un peu dans nos podcasts, un artisan d'art peut trouver pendant 45 minutes des réponses sur une seule thématique, par exemple sur le choix de son statut juridique, sur comment intégrer le design dans sa démarche créative, sur je parlais tout à l'heure du calcul du prix, ça c'est un autre exemple. Sinon, un autre outil très concret, mais c'est pas pour faire pour mettre en avant ce que l'on a fait, mais un petit peu, c'est qu'on a écrit un livre qui s'appelle Entreprendre dans l'artisanat d'art, qui explique, qui a pour vocation en plusieurs chapitres de s'autoporter et de donner des réponses concrètes à chacune des questions que peut se poser un artisan d'art dans son quotidien. Et donc on va retrouver des exemples très pratiques avec des témoignages d'artisans d'art, mais aussi des exercices pour travailler sur des points précis de son entreprise. Donc ça, typiquement, c'est deux outils que quelqu'un peut trouver sans même nous rencontrer physiquement ou venir à nos événements.
Vous avez également ce qu'on appelle plus concrètement des programmes de formation.
Oui,
par exemple, le programme impulsé sur 4 mois, le programme devenir artisan, le programme de formation plus global.
Exactement. Donc ça, c'est pour effectivement les artisans d'art. On a commencé par des petites actions et on s'est rendu compte que c'était bien d'accompagner des artisans d'art pendant un soir ou le temps d'une après-midi, mais qu'il y avait un vrai désir pour certains d'aller plus loin. Et on a créé 2 programmes, un programme qui est effectivement plutôt pour des gens qui sont en reconversion, qui se posent des questions sur les métiers d'art. Souvent, on a tendance à se dire que c'est tout un univers qui s'ouvre à nous, mais on ne se rend pas compte de la réalité des métiers d'art. Et tout l'intérêt de ce programme qui dure 2 mois, c'est de rencontrer des experts du secteur, des artisans d'art, des entreprises et d'autres personnes vraiment bien installées sur ce secteur-là pour les aider à discerner, comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans le métier d'art, est-ce que c'est fait pour eux et s'ils veulent y aller, quelles sont les étapes à franchir pour y aller et les différents canaux ensuite de formation donc ça c'est le programme de reconversion, et l'autre programme impulsé c'est pour les artisans d'art qui créent leur entreprise ou qui veulent la développer. Et là c'est un programme un peu comme un incubateur, un peu comme un accélérateur. On va prendre pendant 4 mois une promotion de 20 artisans d'art et on va les accompagner sur tous les sujets de la création d'entreprise et du développement de l'entreprise. Donc on va tout voir, on va voir l'image de marque, la communication, la gestion du temps, le marketing, donc le prix, la distribution, comment on négocie, comment on présente sur un salon. On va vraiment tout voir ensemble au moins une fois et donner les bons réflexes, les vrais réflexes à avoir en tant qu'entrepreneur artisan d'art ou artisan d'art entrepreneur. Et généralement, donc on a formé un peu plus de 80 artisans d'art dans ce programme et on est assez heureux de voir qu'à la fin du programme, les gens ont répondu à beaucoup de questions en venant et ils en repartent avec d'autres, mais ils se sentent armés, ils ont confiance pour continuer. C'est un peu ça notre mission, c'est donner le courage d'entreprendre, mais aussi donner confiance. Parce que quand on entreprend, il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur et la peur de ne pas faire bien et de mal faire et de ne pas être à sa place. Et nous, on dit, si vous avez votre place, vous avez un savoir-faire, vous êtes talentueux et donc, en fait, allez-y, quoi. Il faut y aller.
Philippe Azet, vous évoquez donc depuis quelques minutes 2 notions, oui. Artisan et art. Alors, on a tendance à les séparer, du côté l'artisanat et l'art. Et là, vous parlez donc d'artisanat d'art. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre quand on parle d'un artisan d'art, de l'artisanat d'art? Qu'est-ce que c'est concrètement?
Alors, ça, c'est un vaste sujet sur lequel beaucoup de gens ne seraient pas forcément d'accord avec les différentes définitions. Il y a beaucoup de définitions. Moi, ce que j'aime bien, c'est, il me semble que c'est la définition de l'Institut national des métiers d'art. Je veux pas dire de bêtises. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée que voilà, c'est de la transformation de matière avec un savoir-faire complexe pour produire soit un objet unique, soit de la petite série. Et avec cette idée qu'il n'y a pas de consommable. Par exemple, un fleuriste, et c'est là où c'est un peu où c'est un peu vague, un fleuriste, par exemple, vu que la matière, il n'y a pas de transformation de matière et que la matière se consomme, n'est pas un artisan d'art. C'est un artisan, mais ce n'est pas un artisan d'art. Par contre, un artisan d'art qui va utiliser de la fleur séchée, pourrait rentrer dans cette catégorie d'artisan d'art et peut être considéré comme un artisan d'art. Et on peut avoir autant quelqu'un qui fait de la sculpture que quelqu'un qui fait de la céramique que quelqu'un qui fait du savon. Et c'est pour ça qu'on a 280 métiers d'art, parce qu'ils rentrent dans cette définition de la transformation de matière avec un savoir-faire complexe. Il va se distinguer de l'artisan de service qu'on peut trouver dans le coiffeur ou le taxi, de l'artisan de bouche qui va être l'artisan charcutier ou boucher, ou de là encore de l'artisan du bâtiment qui va être le peintre, le maçon, etc. On est plus dans l'artisanat de fabrication avec ces notions que je viens de décrire.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Philippe Hazet, j'aimerais avoir votre regard de façon plus large sur cet univers d'artisanat. Est-ce que justement dans les personnes qui décident de franchir le pas, comme vous l'évoquiez, de devenir des artisans, de véritables artisans, de se lancer dans un entrepreneuriat de fabrication d'objets d'art, d'artisanat d'art, qui rencontrez-vous ? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous constatez que vous rencontrez davantage de personnes qui, d'une certaine manière, hein, par facilité de langage, qui souhaitent changer de vie ? Qui vraiment veulent passer à complètement autre chose, par exemple, qui laissent leurs entreprises, leur activité en entreprise, leur entreprise, on va dire, classique, traditionnelle, pour aller vers quelque chose qui a plus de sens, qui a plus de valeur humaine.
Oui, alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que, il me semble que c'était l'Institut supérieur des métiers d'art qui disait qu'en 10 ans, le secteur avait perdu 25 000 emplois. Mais si on regarde sur la même période, il y a eu plus 34% de création d'entreprises. En fait, on se rend compte que les manufactures ou les entreprises avec plusieurs personnes par concurrence industrielle ont fermé et donc perdu des salariés. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'artisanat d'art seul et qui créent des entreprises unipersonnelles. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, un artisan d'art sur deux est un est un reconverti. Mmh. Et en fait, il y a un vrai mouvement de reconversion, mais aussi de féminisation du secteur. Ah. Alors, il y a un livre qui est très intéressant, que j'encourage les auditeurs à lire, qui s'appelle Du cœur à l'ouvrage, qui a été écrit par une sociologue qui s'appelle Anne Jourdain, qui décrit tout ce phénomène de féminisation, de reconversion, et notamment du fait que pendant longtemps, les métiers d'art ont été et les métiers manuels ont été relayés à des métiers pour le dernier de la classe, pour celui qui était pas bon en maths et en français, j'exagère, mais c'était pendant longtemps les métiers manuels, c'était pour les derniers de la classe, alors que des tas de personnes sont passionnées par les métiers manuels. Et ils se rendent compte, après plusieurs années d'études, que finalement, ils n'ont pas envie de faire du tout un métier de bureau. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe », qui en parle très bien. Il me semble que c'est le sociologue Kasli qui l'a écrit, qui parle de ce phénomène-là, justement, de personnes qui ont suivi un peu des voies classiques de grandes études supérieures, et qui en fait se rendent compte au bout de plusieurs années qu'ils ont envie de redonner du sens. Et quoi de mieux pour donner du sens que de maîtriser pleinement la matière, de la transformer et d'aller d'un bout à l'autre de la chaîne de production, c'est-à-dire de partir de la matière et d'aller jusqu'à un objet fini. Et donc, véritablement, les gens retrouvent du sens là-dedans, retrouvent du sens dans le fait de transformer et d'aller sur un produit fini, de choisir quelque part aussi par l'entrepreneuriat la manière dont ils veulent vivre au quotidien l'aventure. Mais attention, c'est pas parce que ça donne envie que c'est facile. Et la réalité, c'est qu'il faut plusieurs années avant d'arriver à en vivre, que beaucoup d'artisans d'art ont du mal à en vivre, parce que c'est des métiers où, mine de rien, on est sur de la petite série et des pièces uniques, et donc des produits qui valent cher. Et donc, il faut trouver des canaux de distribution, il faut arriver à trouver qui sont ses clients et la valeur qu'on leur apporte. Et ça peut prendre du temps, surtout lorsque les gens ont été habitués pendant des années à acheter assez facilement dans des enseignes au coin de la rue des choses pas chères et dont ils ont l'impression que la qualité est bonne alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Donc voilà, il y a aussi une éducation du consommateur qui est imparfaite et qui fait que on pourra jamais concurrencer l'industriel avec l'artisanat d'art, mais par contre l'artisanat d'art, parce qu'elle l'apporte, peut influencer l'industriel à faire mieux. Et c'est en cela, moi, que j'encourage beaucoup l'artisanat d'art à justement être des métiers d'avenir.
Philippe Azet, dans quelle mesure vous pensez que les questions climatiques et environnementales ajoutent justement encore plus d'importance à cette recherche de sens dont vous parliez?
Déjà parce que on a beaucoup d'exemples d'artisans d'art qu'on a accompagnés ou que l'on connaît qui mettent, par exemple, l'économie circulaire ou en tout cas l'écologie au cœur de leur concept. Je pourrais donner quelques exemples. Et par exemple, on a accompagné une entrepreneur dont la marque s'appelle Up Studio, qui travaille à partir de chutes de tissus, de grandes maisons d'ameublement pour faire de la création textile et de la tapisserie d'ameublement, etc. On va avoir, par exemple, ou encore une marque qui s'appelle le Bazar d'Alger, où c'est un graphiste illustrateur qui va chiner de la vaisselle dont plus personne ne veut ou qui est un peu désuète, et qui va lui, par un simple service de transformation à l'aide d'une technique qui s'appelle le Kintsugi, va redonner à la vaisselle, et puis avec un peu de personnalisation, avec de la peinture sur porcelaine, va redonner toute une vie à une vaisselle qui était condamnée à être jetée à la poubelle. Mmh. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Et en fait, l'artisan d'art, généralement, c'est très intéressant, c'est que c'est un métier de passion et c'est un métier de singularité. Et il va essayer de mettre toute son âme et tout son corps dans sa création. Et quand on met toute son âme et tout son corps, on en prend vraiment soin. Et je pense que c'est en cela qu'il y a de l'écologie aussi. C'est qu'on fait attention à ce que l'on fait, à la qualité de son produit, à la qualité des matériaux qu'on utilise. Et donc, l'artisan d'art, plus que tout autre fabricant, j'ai envie de dire, va faire vraiment attention à ça, au choix de la matière et à la destination du produit. Et je pense que l'artisanat d'art, parce que c'est une pièce unique aussi, dans la tête du consommateur, lorsqu'on va acheter... une pièce qui est unique et donc on sait qu'on va la casser, on ne la retrouvera pas, on fait beaucoup plus attention à la manière dont on la traite. Et je peux vous dire que quand vous avez un parapluie qui est une pièce unique et qui est fait à la main, vous ne l'oubliez pas dans le métro, contrairement à un parapluie à 1 euro. Et donc voilà, c'est aussi ça l'enjeu de l'artisanat d'art, tant dans la manière de fabriquer que dans la manière du regard qu'on porte sur l'objet.
Philippe Azet, les artisans d'avenir, donc comprend, donc c'est ce réseau comprend une équipe de 15 bénévoles aujourd'hui, si j'ai bien compris. Il est donc possible de vous rejoindre en tant que bénévole, mais pour faire quoi, pour mener quelle mission si on rejoint les artisans d'art en tant que bénévole?
Alors, cela dépend. En fait, on est vraiment soucieux que les personnes qui nous rejoignent en tant que bénévoles aient un intérêt un intérêt particulier déjà pour les métiers d'art, mais aussi à eux de venir et d'entrer dans le secteur des métiers d'art et à se développer ou à développer des compétences au sein de l'association. Parce que toutes les tâches qu'on va avoir, on a toujours des choses à faire, mais elles dépendent surtout de la volonté du bénévole de les prendre en main. Donc ça peut être très variable. Généralement, là, on est en train de monter. Donc, on a commencé à Paris, en région parisienne. On est en train de se développer dans d'autres villes de France, parce que les artisans d'art sont en majorité bien en dehors de l'Île-de-France. Et donc, on a, par exemple, ouvert une antenne à Nantes, ouvert une antenne à Lille, et on a l'antenne parisienne. Mais c'est tout simple, c'est que les bénévoles, par exemple, dans ces antennes en province, vont organiser des apéros, des temps de rencontre entre les artisans d'art de la ville ou en tout cas de la métropole du coin, pour ne serait-ce que se retrouver et faire réseau et sortir un peu de sa solitude de son atelier. Donc par exemple, ça peut être ça, ça peut être d'organiser des événements, ça peut être d'aider l'organisation d'événements, comme ça peut être d'aider tout simplement à l'organisation notre boîte à outils, puisqu'on a une boîte à outils digitale sur laquelle les artisans d'art peuvent trouver du contenu. Ça peut être aussi de nous aider dans les actions de communication. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir un rôle au sein du conseil d'administration pour réfléchir à la stratégie et aux nouveaux moyens qu'on peut mettre en œuvre pour les artisans d'art. Donc voilà, c'est très varié. On n'a pas d'attente particulière, si ce n'est qu'il faut effectivement que le bénévole ait envie d'apporter quelque chose aux artisans d'art et prennent les choses en main au sein de l'association lorsqu'il y a des choses à faire.
Philippe Azet, vous-même, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cet univers auprès donc d'animer avec d'autres le réseau des artisans d'avenir?
Alors, moi, ce qui m'a fait un peu arriver dans le secteur des métiers d'art, c'est un peu la conviction que je vous disais au début, c'est cette sensation que voilà, on arrive quand même au bout d'un système, on le voit bien d'un point de vue écologique, mais aussi philosophique, sur la manière de produire et sur la manière de consommer, parce que on voit bien que voilà, qu'il n'est pas normal d'acheter des choses à 10 euros qui parfois ont fait le tour de la planète et on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été faites, et que pour que ce soit la plupart du temps oublié au fond d'un placard au bout de très rapidement. Et en fait, toutes ces questions-là m'ont fait réaliser que il fallait remettre du sens dans la manière de produire et de consommer, et que des gens faisaient ça très bien, qu'on avait un peu oublié, et qu'ils étaient juste en bas dans la rue, et que c'était les artisans d'art. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à toutes ces thématiques. Et donc toutes les convictions d'artisans d'avenir un peu ont été celles de Dodo Gay, donc mon associé, de moi-même, celles-ci. Celles vraiment que ce sont des métiers très importants pour répondre à des enjeux actuels, et en fait très actuels, des métiers qui sont millénaires, sont des solutions à des problématiques contemporaines. Et c'est ça qui m'intéresse profondément, et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'aider ces artisans d'art, qui en plus sont des gens passionnants, des gens avec qui on a envie de discuter. Lorsqu'on rentre dans un atelier, qu'on commence à parler avec un artisan d'art, c'est très dur d'en sortir, non pas parce que l'artisan d'art nous tient la jambe, mais c'est parce qu'on a envie de l'écouter toute une journée, et toute une après-midi, toute une soirée.
Pour ceux et celles en tout cas qui souhaitent en savoir davantage sur les actions des artisans d'art, donc il y a le site internet bien sûr, Philippe Azet. Oui. Et donc bien, je vous remercie beaucoup d'être venu parler donc des artisans d'avenir à l'antenne d'Aligre FM. Je rappelle que vous êtes cofondateur du réseau Artisans d'avenir. Merci Philippe Azet.
Merci infiniment pour votre invitation.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Thank you.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. On écoutait la musique de Dali Farka Touré et Ray Couder, Bondé. Nous sommes donc en pleine semaine thématique consacrée à l'artisanat sous le titre « Les mains ont la parole ». Et après avoir donc écouté Philippe Azet du réseau Artisans d'Avenir, là je vous invite à découvrir l'Atelier des créateurs, donc ce qui est... C'est un réseau donc qui s'occupe donc des artisanats, qui s'engage dans la valorisation du savoir-faire des marques et des artisans d'art français. Je reçois donc Marie-Laure Massieu, qui dirige l'Atelier des créateurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Marie-Laure Massieu. Merci à vous d'être venue nous parler donc en fait, semaine thématique consacrée à l'artisanat. Donc, je rappelle que votre travail dans l'Atelier des créateurs consiste à sélectionner donc des produits et créations provenant de la transformation de matières premières ou d'un objet existant.
Tout à fait.
Donc, transformation qui se fait grâce à un savoir-faire particulier et hors du contexte industriel. C'est le parti pris de l'Atelier des créateurs. Donc, toutes les pièces proposées résultent donc d'une production artisanale. Alors, déjà, de quels produits ça s'agit-il? Quels produits est-ce que vous proposez au sein de ce réseau?
Alors, c'est relativement large. Au début, la plateforme a été montée pour pouvoir aider les artisans à promouvoir leurs produits sur le digital. Donc, la sélection était à l'origine 100% sur de la décoration. Donc, céramiste... poterie, mobilier, luminaire. Et en fait, avec le temps, ça s'est développé sur des catégories comme les produits de bien-être, donc le savon artisanal. Également, on a une partie, à un moment, épicerie fine. Donc, tous les personnes qui vont créer des marques de gâteaux, tout est fait main, etc. Et le sujet était vraiment de pouvoir mettre en valeur des créateurs, des artisans qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas de visibilité. Donc le concept de l'Atelier des créateurs, la plateforme digitale, était d'aider les artisans à promouvoir leurs produits en ligne. Donc moi, je viens d'un parcours du digital marketing. Donc, dans mon ancienne vie, j'accompagnais des marques à générer du trafic et des leads sur leur site internet et des ventes. Donc, je me suis dit, je sais faire, je vais lancer une plateforme de vente en ligne. Alors, entre ce qu'on croit savoir faire et la réalité, il y a un petit décalage. Hein. C'est-à-dire que l'artisan est très bon dans sa création, dans sa production, mais après, pour se promouvoir et pouvoir justement faire un descriptif de produits, des photos, c'est un autre sujet. Donc c'est un vrai challenge de pouvoir promouvoir et vendre en ligne les produits.
Donc concrètement, ce sont les artisans qui s'adressent à vous, qui vous disent « je connais donc vos compétences ». En quelque sorte, comment est-ce que vous pouvez m'aider à promouvoir, à me faire connaître? C'est ça ou bien c'est l'inverse? Ou bien c'est vous qui allez les chercher?
Alors, les deux.
Les deux.
Au début, c'était moi qui allais chercher les artisans qui me plaisaient par rapport à un cahier des charges que je m'étais fixé et qui est d'ailleurs calqué sur les valeurs de Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, c'est-à-dire des produits avec un savoir-faire, avec une transformation, avec des matières premières brutes qui sont transformées. Donc ça, c'était le critère déjà de pouvoir mettre un cahier des charges sur la sélection, parce qu'en fait, c'est hyper difficile quand on a des demandes parfois des créateurs qui nous disent « je veux rejoindre la plateforme » et qu'on se rend compte que derrière, il n'y a pas assez de travail de transformation ou que ça va être un peu industrialisé. Du coup, on doit dire non et on doit pouvoir justifier le fait de dire non également.
C'est-à-dire que vous avez, vos critères à vous, c'est-à-dire critères qui vous permettent donc d'accepter ou non tel type de produit.
Exactement.
D'accord.
Ouais, exactement. Et ce que je disais, c'est que ces critères-là ont été mis en place avec la Chambre des métiers des artisans. Donc en fait, en gros, ils doivent être inscrits à une chambre ou être indépendant, ou avoir quand même des compétences techniques et un savoir-faire qui permettent de les mettre en ligne et valoriser les produits.
Alors, Marie-Laure Mathieu, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est quel type de personnes est-ce que vous rencontrez quand ces artisans, donc ces artisans d'art, justement, hommes et femmes, qui soient vers lesquels vous allez ou qui viennent vers vous, c'est quel type de personnes en termes de parcours, en termes d'âge?
Alors, c'est extrêmement varié. J'ai lancé la plateforme en 2017. Et au début, il y avait un profil quand même de... Je dirais plutôt une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans, avec des gens qui étaient déjà professionnels et qui avaient déjà quelques années, on va dire, de métier. Ou qui se lançaient, mais qui étaient en reconversion professionnelle, mais qui étaient déjà dans un milieu de l'artisanat. Aujourd'hui, on a affaire à une génération beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamiques et qui ont déjà eu des carrières, mais qui n'ont rien à voir avec l'artisanat. J'ai de plus en plus affaire à des reconversions. Donc, on va dire des joailliers qui ont fait un CAP ou des ébénistes qui ont fait une formation d'ébénisterie et qui se lancent dans ces métiers-là, qui ont besoin de trouver des espaces pour valoriser leur travail et se vendre. Donc, une plateforme comme la mienne, il y en a plein. Il y a des positionnements, par contre, qui sont différents. Il y a la plateforme des Ateliers d'Art de France où ils ont une sélection très rigoureuse sur certains critères. Moi, je vais être un peu plus globale, mais je ne vais pas non plus être dans d'autres plateformes qui vont être sur des produits un peu plus, faciles à créer, un peu moins professionnels, si je puis me permettre. Sans les citer, Etsy, qui est une des plus grosses plateformes de vente en ligne de produits d'artisans, eux, ils n'ont pas de critères de sélection. C'est vrai que moi, j'ai trouvé un positionnement qui est un peu au milieu. On accepte des jeunes qui n'ont pas la qualité de travail d'un atelier d'art, mais qui sont quand même très bons et qui font des choses originales et qui ont une démarche de production qui est dans l'air du temps. J'entendais tout à l'heure rapidement l'intervenant d'avant, voilà, qui parlait de matière et d'écologie, d'upcycling, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. La plupart des artisans qu'on sélectionne, ils ont une démarche derrière. Les bougies, ça va être de la cire de soja bio, des parfums naturels, les matières premières sur le textile, souvent, ça va être de l'upcycling, de produits. J'ai des céramistes qui vont essayer de faire moins de cuisson et utiliser moins d'émaux pour moins polluer. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions, généralement, dans la création du produit, au-delà de la créativité pure.
Je vous propose d'écouter un peu de musique avant de reprendre notre entretien avec Marie-Laure Mathieu, qui donc dirige et anime l'atelier des créateurs. Donc, nous sommes toujours dans cette semaine thématique consacrée à l'artisanat. Les mains en la parole sur Aligre FM. Juste une pause musicale avant d'en parler à nouveau, donc de l'atelier des créateurs.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Like I had cerebral palsy, my flows be sweat like all you girl draws be. Crack the bill, spread the Buddha, then the hit ass. Roll it up and then ask, who chipped it for the tin bag, etc. I roll my blunts with two textures. Pick up 50 bags and then I smoke all the extras. It's the truth, like fuck when they be proof. Don't drop your jaws, I fuck through your daisy dukes. Put your fingers up in the air if you're high. I walk by, so F a dry. I swing up in it, bad and average is half as good as Reggie Jackson's. That's why you talk back. And the chucks be on some vocal shit like Humphrey. You couldn't beat me if you ran with 21 Jump Street or 90210, fucking yo. In the movies, I'm the nigga pumping Buddha in the back row. I
the land of the lost. You can't see me like Charlie Angel's boss. I'm often cooling round the blitz. I rock round the glitter. My glitter cock from hitting 16 for litter. Ask Roger Thomas if I'm getting scoffed. I was built like two tits, now I'm butter like blue bonnet.
Now who got the flow?
We got the flow.
And yo, well, I got the weed.
We got the blood.
I never sniffed. I used to pump boolers in the jail. Back in 88 when it was 20s in the Grand Reserve. You couldn't feel me in prep. Hell, I write my names on walls and smoke spots when I'm buying them. The fly guy with the force like Luke Sky. Down for a boxy twat, bitch, if you're blind. The Funkadelic, been rocking mics since the fourth grade. I terminate like X and I terminate like Schwarzenegger.
Dumpty-dum,
rock like Fuji Bun Ton. Soup like one ton, fuck by the tons. Jerome's, please. My whole crew's making cheese. Tonight's the night, baby, so suck up on these. And it's out. To the left, smoke the chalk, I set shit off like Bobo Fett. Pick up to all my niggas in the housing projects. I'm running up and you continue to split your guts.
Les mains ont la parole sur Aligre FM. Ébéniste, plumassier, luthier, vitrailliste, les artisans et l'artisanat sont à l'honneur du 13 au 19 novembre sur Aligre FM. Combien sont-ils? Comment travaillent-ils? Comment transmettent-ils leur savoir-faire? Quelle place occupe leur production dans l'économie? Située au cœur d'un quartier historique de l'artisanat, la radio pousse les portes des ateliers, vous invite à redécouvrir des lieux emblématiques comme la Cité de l'Industrie et des métiers connus ou méconnus qui associent maîtrise de gestes ancestraux et démarches d'innovation. Les mains ont la parole sur Aligre FM, du 13 au 19 novembre 2023. Soyez au rendez-vous.
Je reçois Marie-Laure Massieu de l'Atelier des créateurs, avec qui donc nous parlons de l'activité de cette plateforme destinée donc aux artisans d'art. Marie-Laure Massieu, dans votre activité, qu'est-ce qui, dans tous les domaines d'activité, qu'est-ce qui vous... alors bien sûr, vous avez évoqué donc divers types de produits. Dans quel domaine est-ce que vous constatez qu'il y a une demande d'aide plus que d'autres? Est-ce quel type d'artisan par rapport à son métier d'origine fait davantage appel à vous? Bien, c'est assez équilibré.
Alors non, c'est pas équilibré. Il y a énormément de demandes sur la création de bijoux.
Ah.
On va dire céramique et bijoux, c'est vraiment les, pour moi les secteurs où il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'artisans et beaucoup de demandes. Je vais donner un exemple, mais sur la plateforme, j'ai près de 400 artisans référencés. Et dans la catégorie de bijoux, je pense que ça doit être au moins un tiers des produits qui sont mis en ligne. Et j'ai ouvert une boutique physique à Montmartre, au 1 bis rue Ravignan, il y a 2 ans. On accueille les artisans de la plateforme pour vendre physiquement les pièces, parce que, encore une fois, sur le digital, c'est pas simple. Et c'est vrai que 50% des produits vendus, c'est du bijou. Il y a une forte demande auprès des clients. Et il y a énormément d'acteurs sur ce secteur d'activité. Ouais.
Justement, vous êtes vous-même à la jonction du créateur, donc des créateurs, des artisans et du public, parce que c'est des personnes qui essayent, comme vous le dites, de répondre à la demande des acheteurs potentiels. Comment est-ce que vous ressentez cet univers-là? Est-ce que vous avez le sentiment que l'image de l'artisan aujourd'hui, en particulier l'artisan d'art, c'est valorisé? Si oui, pour quelles raisons? Comment est-ce que vous comprenez, ressentez le métier aujourd'hui?
Alors, j'ai ressenti un réel intérêt, un intérêt grandissant sur le sujet après le Covid.
Ah.
Avant, les gens trouvaient ça sympa, les produits artisans. Et depuis le Covid, il y a eu une prise de conscience, je pense, assez générale du fait que la consommation doit être régulée, qu'il vaut mieux consommer local, moins. Et je trouve que les gens ont une sensibilité aujourd'hui à ça qui est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Enfin, vraiment, je vois avec la boutique où je suis pratiquement tous les jours aujourd'hui, les clients trouvent ça beau, apprécient et sont prêts à mettre un peu plus d'argent dans des pièces maintenant que d'acheter des choses dans des chaînes ou des produits manufacturés.
Alors, une question que je posais tout à l'heure également à Philippe Azet, donc des artisans d'avenir, et l'impact donc des questions climatiques et environnementales sur ces métiers, comment vous le ressentez? Est-ce que, quand je parle donc de vous parler effectivement donc de ce regain d'intérêt après le Covid, mais de façon plus générale, est-ce que ce qui est cette tendance, qui consiste effectivement à trouver plus de sens dans ce qu'on fait dans le travail, est-ce que ça se répercute sur les artisans que vous côtoyez, que vous rencontrez, que vous essayez donc de mettre en valeur?
Oui, alors ça se répercute évidemment. Alors pour l'artisan, je pense que quand il y a un changement de carrière dans des métiers de la création, c'est parce qu'on veut donner un sens à ce qu'on fait aussi. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et au niveau de la clientèle, c'est aussi l'envie de mieux consommer qui ressort. Et puis, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est également le fait de créer, mais de bien créer, c'est-à-dire de faire attention à son impact quand on utilise certains produits, quand on va créer une pièce. J'ai un créateur de bijoux, par exemple, il fait du recyclage de pierres précieuses. Donc des pierres qui ne peuvent pas être taillées dans la haute joaillerie, elles ont un défaut, et il va les réutiliser pour créer des bijoux avec. Donc il y a quand même beaucoup de réflexions souvent avec les artisans avec qui on travaille sur ce sujet. Donc ça donne une tendance, à mon avis, qui est dans le mieux produire et mieux consommer, dans les deux sens, je pense. Mmh.
Marie-Laure Massieu, donc les artisans d'art que vous mettez en valeur, non seulement mettre en valeur, mais les aider donc à se développer, parce que comme vous dites, on peut être un très bon artisan sans savoir comment vendre, comment se faire connaître. Et est-ce que vous arrivez donc à évaluer les retombées, les résultats? On peut parler de résultats, puisqu'il s'agit bien sûr de commercialisation, n'ayant pas peur de ces termes-là, qui ont tout leur sens. Est-ce que vous arrivez à évaluer vos résultats, votre efficacité pour ces personnes-là?
Alors oui, je peux les évaluer parce que j'ai des chiffres de vente. Et malheureusement, on peut pas apporter le même résultat à tout le monde. C'est une question de sensibilité, de qualité de production. Et chaque artisan, nous, on apporte des outils et des supports pour les aider et les accompagner. On peut pas faire le travail entièrement, évidemment. Donc on a la plateforme de vente en ligne, une boutique, et on développe des partenariats avec d'autres boutiques qui accueillent nos artisans chez eux pour aider les artisans à trouver des lieux de vente adaptés. Mais on peut pas garantir le succès et comment les clients vont percevoir et vont consommer. Donc je dirais franchement, peut-être j'ai un tiers des créateurs qui vont sortir du lot et qui vont générer des ventes, des revenus, et avec qui on va vraiment pouvoir avoir un accompagnement avec un impact. Et il y a une grosse partie où soit c'est une question de pas le temps pour eux, soit c'est une question de pas savoir ou pas d'intérêt à aller avec ce genre de service. Et ils se débrouillent très bien dans leur réseau à eux et avec leur propre système de vente.
C'est-à-dire que vous constatez encore des réticences, bon, je vais employer un terme par facilité de langage, à se moderniser de la part de certains artisans, c'est-à-dire donc de ne pas utiliser les outils d'aujourd'hui pour se mettre en avant.
Alors, ce n'est pas un manque de volonté, je pense que c'est un manque de temps et de savoir-faire. Devoir gérer un site internet, les réseaux sociaux, savoir se vendre, c'est un vrai problème pour eux. Savoir fixer le bon prix, savoir... voilà, avoir les codes, on va dire, de aujourd'hui. Il y en a de plus en plus qui les ont, parce que ça devient une obligation. Mais heureusement, il y a des aides, il y a des formations pour ça, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on le fait et qu'on le fait bien. Du coup, on voit vraiment la différence entre les plus jeunes, si je peux me permettre, qui, voilà, naturellement vont avoir des comptes Instagram ou des comptes TikTok ou j'en sais rien, où il va y avoir une vraie animation, ils vont savoir se mettre en scène, ils vont montrer leur travail, être très proactifs avec ce genre d'outils. Et d'autres qui sont un peu réfractaires. Et du coup, ça a un impact global, en fait, sur toutes les actions qu'on met en place.
Donc, je reviens un peu aux personnes que vous rencontrez. Des personnes qui sont en reconversion, pardon, qui souhaitent changer de métier. Mais pour les plus jeunes, est-ce que vous rencontrez vraiment des personnes qui sont dans cette activité comme étant leur première activité, qui vraiment ont fait ça tout de suite, des personnes plus jeunes qui se sont lancées très vite par goût d'un métier ou non
Alors oui, mais c'est une vraiment très faible minorité.
C'est très faible minorité, c'est surtout des personnes...
J'ai pas d'exemple très concret de créateurs que j'ai accompagnés qui venaient de se lancer et qui n'avaient rien, enfin qui n'avaient pas d'autres expériences professionnelles avant. La plupart, soit ils sont déjà implantés depuis très longtemps et ils utilisent ma plateforme comme support supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà. Il y en a même qui se sont lancés avec moi et après ça a commencé à fonctionner, donc ils ont arrêté et c'est très bien pour eux parce que ça prouve que ça a été utile à un moment. Alors pour moi c'est toujours un crève-cœur évidemment de les perdre, mais
c'est la vie.
C'est la vie et je me dis bon, moi j'ai servi à quelque chose. Mais sinon, des très très jeunes qui se lancent. Franchement, j'en ai pas rencontré beaucoup.
C'est plutôt des personnes dans une seconde phase de leur vie.
En grande majorité, aujourd'hui, les créateurs avec qui j'ai affaire, c'est ça. Ou des gens qui ont été et qui sont dans ce milieu-là depuis très très longtemps. Et encore une fois, du coup, on a un rapport qui est différent parce que ce sont déjà des professionnels, ils savent pourquoi, ils viennent nous voir. Voilà, c'est une raison très spécifique. Il y en a qui se lancent et qui attendent vraiment. Il y a une vraie pression sur les attentes.
Et vous-même, Marie-Laure Mathieu, c'est un peu une deuxième phase de vie professionnelle, puisque vous ne vous occupiez pas d'artisan avant. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à l'artisanat et à proposer à ce corps de métier des outils pour plus d'efficacité?
Eh bien, des rencontres. Des rencontres d'amis qui sont créateurs et qui font des trucs géniaux. Et à chaque fois, on est là, vend. Et puis la personne est là, mais je ne sais pas comment faire, j'ai pas le temps, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu à force d'entendre ce genre de phrases qui m'a... ça a commencé à mûrir dans ma tête. Et je me suis dit, il y a un sujet, il y a vraiment une demande... D'avoir une personne qui sait vendre, qui sait maîtriser les outils digitaux et qui peut apporter un savoir-faire à ces personnes et à ces profils qui en ont besoin.
Et donc, de ce fait, ça a ouvert votre regard sur des métiers qui ne vous intéressaient pas auparavant, que vous ne connaissiez pas.
Absolument. Je maîtrisais absolument rien du tout quand j'ai lancé l'atelier des créateurs. J'ai appris...
En tout cas, dans le domaine de l'artisanat.
Dans le domaine de l'artisanat, oui, bien sûr. J'ai appris à force de les contacter. Après, c'est par appétence et par goût aussi d'aller chercher certains profils plutôt que d'autres. Puis après, ça prend et puis on côtoie de plus en plus de gens. On est dans les réseaux, on travaille en partenariat avec les chambres des métiers, justement. On échange, il y a plein d'acteurs sur ce marché-là qui font des choses formidables et qui sont là pour accompagner les artisans.
Donc, ceux et celles qui nous écoutent, artisans, qui souhaitent se rapprocher de vous, donc l'atelier des créateurs, les sites internet, on peut donc entrer en contact avec vous par ce biais-là.
Tout à fait, voilà. atelierdescreateurs.com.
Marie-Laure Mathieu, merci. Je rappelle donc que vous animez, vous avez créé donc l'atelier des créateurs. Dans le cadre de cette semaine thématique consacrée à l'artisanat, les mains ont la parole. Nous avons donc, nous avons proposé ce soir donc un aperçu de mode de fonctionnement de l'univers artisanal à travers donc la parole de Marie-Laure Massieu de l'Atelier des créateurs et celle de Philippe Azet des artisans d'avenir. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Julien Cherdieu qui était à la technique. Dans un instant, vous retrouverez donc nos amis de Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique sur Aligre FM 93.1. Bon week-end, bonne semaine, à la semaine prochaine, bonne soirée.
Aligre FM 93.1.